Merci Claude. Eh bien, en ce qui concerne le titre d'aujourd'hui, il est totalement inadéquat du début jusqu'à la fin parce que, il n'y a pas de minéralogie médiévale. Et d'ailleurs, si on définit par minéralogie l'étude scientifique des substances inorganiques d'origine naturelle, il n'y a pas de minéralogie avant la chimie de Lavoisier et la cristallographie de Hauy et de Romé de Lisle. Pourtant, le monde médiéval est plein de pierres, depuis celles qui ont servi à bâtir les cathédrales, jusqu'au cabochon des châsses, en passant par toutes sortes de minéraux, les ocres de Saint-Savin, les pigments, les médicaments et autres choses encore. Le problème est qu'au Moyen Âge, ce monde minéral n'est d'abord pas tellement bien distingué. Aristote, sans doute, distingue soigneusement les êtres qui ont une âme végétative d'abord, puis sensitive, donc les végétaux, les animaux, et les pierres qui n'en ont pas, mais le langage courant dit gynotai en grec, c'est-à-dire il naît, et nascitur en latin, il distingue des pierres mâles et des pierres femelles, et on laisse dans les mines une période de jachère, comme dans les champs, pour permettre aux filons de se reproduire et de se développer. Donc le monde minéral incertain. La tradition est incertaine aussi. En effet, ce que nous appelons aujourd'hui la minéralogie, c'est-à-dire le savoir sur les minéraux, est éclaté au Moyen Âge entre plusieurs traditions textuelles. Et là, il faut les détailler parce que chacune met en œuvre ses propres règles de critique. Ce que nous appelons aujourd'hui la géophysique est dans la tradition antique et médiévale, non, je vais parler d'ici, dans la tradition antique et médiévale du domaine de la météorologie. Aristote, dans ses météorologiques, et d'autres auteurs comme Posidonius d'Apamée, qui ont écrit aussi des météorologiques, ont traité de tous les phénomènes qui se passent en dessous de la sphère de la Lune, et notamment tout ce qui a trait à la génération, à la production des pierres, des minerais, des terres, des ocres, etc. Le problème, c'est qu'Aristote n'a pas donné d'ouvrage complet sur les minéraux. À la fin du livre 3 des météorologies, il s'arrête et il dit il faudra écrire un livre là-dessus. Il ne l'a pas écrit. C'est Théophraste qui l'a écrit. Théophraste a été redécouvert à la Renaissance. Et ce qui existe comme livre 4 des météorologies, c'est autre chose. C'est un livre de chimie sur les propriétés générales de la matière. Pour combler cette lacune, le Moyen Âge a ajouté à la fin du livre 3 des météorologiques d'Aristote trois chapitres d'un traité d'Avicenne qui s'intitule De congelatione et conglutinatione lapidum, sur la congélation et la conglutination, le collage des pierres. Donc, première tradition, c'est la tradition météorologique. C'est une tradition maintenant qui a été très bien étudiée par Madame Joëlle Ducos. Dans la ligne qui est venue ici, n'est-ce pas? Dans la ligne du traité des pierres de Théophraste, la tradition de description scientifique, systématique du monde minéral n'a pas été perdue. On peut dire que les derniers livres de Pline l'Ancien, du livre 33 au livre 37, sont une description systématique des minéraux. Et après lui, la tradition encyclopédique relaie une partie. Mais l'étude approfondie des minéraux n'est pratiquée que par éclipse. Il faut quand même signaler un chef-d'œuvre de l'étude des minéraux au Moyen Âge, qui a pris 15 ans de rédaction à son auteur, c'est le De Mineralibus de Saint-Albert-le-Grand, commencé en 1245 et terminé vers 1260. Et c'est une tradition qui, après Albert-le-Grand, va de nouveau se perdre, pour renaître avec les grands minéralogistes de la Renaissance, dont Georges Agricola, avec son De Natura Fossilium de 1546. C'est donc la première tradition, la tradition géophysique d'Aristote et la tradition de la description scientifique et de la classification des minéraux. Il y a une deuxième tradition. Ce courant scientifique s'éclipse au Ce courant scientifique s'éclipse à l'époque alexandrine. On voit apparaître un autre genre qui ne vise plus à une description complète du monde minéral, mais qui vise à une... qui privilégie les pierres précieuses, curieuses ou fabuleuses, et qui privilégie leurs propriétés médico-magiques. C'est la tradition des lapidaires. Des lapidaires, j'ai édité les plus anciens d'entre eux dans la collection Guillaume Budé, dans mon livre Les lapidaires grecs, où j'ai publié aussi des textes latins. Les lapidaires, ça remonte à l'époque alexandrine, il y a une description très brève, et puis toutes sortes de propriétés merveilleuses de ces pierres, n'est-ce pas, qui détectent les voleurs, rendent les femmes fidèles, on ne parle pas des hommes, n'est-ce pas, rendent invisibles et permettent de trouver des trésors. On voit, on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de l'irrationnel et du médico-magique. Tradition véhiculée au Moyen-Âge par un traité prétendument mis sous le nom d'Evax, roi des Arabes, qui a été utilisé au XIe siècle par Marbode, évêque de Rennes, dans son Liber Lapidum, très joliment traduit récemment par M. Pierre Monin. Et après Marbode, toute une tradition de lapidaire qui survit jusqu'au XVIe siècle, avec par exemple les poètes de la Pléiade, voyez les amours et nouveaux échanges des pierres précieuses de Rémi Bello, nous sommes dans la tradition du lapidaire médiéval, et cela dure largement jusqu'au XVIIe siècle, avec un grand classique qui sera le bréviaire de la gemmologie, le parfait joaillier ou histoire des pierres et des pierreries, d'Anselme Boès de Baude, conservateur des collections minéralogiques de Rodolphe II à Prague. Le parfait joaillier aura un succès énorme. Ce sera le bréviaire de tous les collectionneurs, de quiconque veut tenir cabinet, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est la deuxième tradition, le lapidaire médico-magique. Mais il y a d'autres formes de lapidaire. Le lapidaire peut être un lapidaire de pierre simple. Il peut être aussi un lapidaire de pierre gravée, c'est-à-dire de figures talismaniques. On peut le graver de figures selon les planètes, selon les signes du zodiaque, selon les décans, selon les étoiles fixes. Et donc, on a ici la littérature des gemmes gravées, récemment étudiée par M. Nicolas Veil-Parot, autre invité de cette maison. Et enfin, dans le lapidaire lui-même, les pierres, n'est-ce pas, par leur beauté, par leur perfection, par les rêves qu'elles suscitent, eh bien, les pierres ont immédiatement élevé l'âme vers les réalités du ciel et les réalités divines. Et donc, il est normal que l'allégorie chrétienne se soit emparée des pierres. Il y a donc des lapidaires allégoriques, c'est la troisième espèce, qui mettent en rapport 12 pierres, les 12 pierres du pectoral du grand prêtre dans l'Exode, ou les gemmes de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, avec les tribus d'Israël, les apôtres, les vertus, les perfections de l'âme, étant ainsi un chemin pour acheminer l'homme vers Dieu. Donc c'est la deuxième tradition qui est bien importante, qui est la tradition des lapidaires. Et la troisième tradition, c'est la tradition de la pharmacopée. On n'imagine pas aujourd'hui le nombre de terres, de pierres, de déchets de la métallurgie, de minerais, qui étaient broyés et qui étaient mis dans des médicaments. Des emplâtres utilisaient régulièrement un ensemble de substances que l'on broyait, que l'on mélangeait et qui avaient des vertus émollientes, cicatrisantes, carminative, que sais-je, n'est-ce pas, réduisant les excroissances de chair et d'autres encore. C'est aussi une réalisation des pharmacologues alexandrins. Elle a été mise, tout ce corpus de ce que l'on appelait les metallica pharmaca, les médicaments minéraux, a été codifié au 1er siècle de notre ère par un médecin militaire, Dioscoride, qui a été le maître de la pharmacopée occidentale. À travers les éditions, les traductions de Dioscoride, ses traductions en latin, ses traductions en arabe, ses retours de traductions en langue vulgaire, ses éditions jusqu'au XVIe et au XVIIe siècle, Dioscoride sera le livre de référence des pharmaciens jusqu'à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle, grâce notamment aux commentaires de Pierre Andrea Mattioli, grâce à la traduction française de Pierre Dupinet et de beaucoup d'autres encore. Donc, on le voit, s'il n'y a pas vraiment de minéralogie au Moyen-Âge, s'il y a plusieurs traditions de réflexion sur le monde minéral, il n'y a pas non plus des limites chronologiques très certaines, puisque des ouvrages de très haute époque sont encore imprimés au XVIIe siècle, non pas à titre de curiosité érudite, mais pour la valeur de savoir qu'ils contiennent encore. Hier, nous avions à l'Institut un colloque sur l'enquête du Régent, c'est-à-dire sur la vaste enquête commandée par Philippe d'Orléans en 1716-1718 aux intendants sur les richesses minérales de la France. C'est absolument fabuleux ce qu'il raconte, par exemple, sur les industries du Poitou, sur les ressources locales. Ça vient d'être tiré de l'oubli des archives de l'Académie des sciences par Madame de Melenard Douillère, qui était l'archiviste de l'Académie des sciences. Eh bien, dans cette enquête du Régent, le catalogue des types de minéraux qu'il faut chercher sur le terrain, c'est encore le catalogue de Pline. Donc, vous voyez, il y a là une tradition extrêmement continue. C'est une tradition sur laquelle on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé dans le domaine de l'érudition. Nous avons maintenant une bonne édition des lapidaires grecs, et pour cause, nous avons une bonne traduction du lapidaire de Marbode, nous avons une superbe édition du Liber Aggregationis, qui est une compilation attribuée à Albert le Grand par Madame Isabelle Dralans. Nous avons, par Madame Ferry, eu une édition du lapidaire de Sidrage, du lapidaire de Mandeville. Nous n'avons toujours pas d'édition critique du De Mineralibus de Saint-Albert-le-Grand. Et les savants d'Allemagne de l'Est ont beaucoup travaillé sur l'œuvre de Georges Agricola. Donc, du point de vue de l'érudition, on a des textes, on a des matériaux, mais il faut maintenant essayer de faire ensemble un exercice un peu plus difficile. C'est de dépasser cette érudition et d'essayer, à travers ces textes, de se hisser, de s'élever jusqu'au niveau de la représentation. L'homme médiéval, qui avait devant lui toute cette diversité, toute cette merveille, tout cet éventail de pierres, comment les a-t-il appréhendées? Qu'en a-t-il pensé? Comment les a-t-il situés dans sa vision du monde? Comment les a-t-il classés? Comment les a-t-il interprétés? Quelle place leur a-t-il donné dans sa représentation du monde? C'est un exercice hautement conjectural. Et je voudrais pourtant aujourd'hui m'y livrer avec vous. En regardant tout simplement de façon empirique, j'ai relu tous ces textes pour venir ici, et j'ai relevé ce qui était le plus fréquent. J'ai relevé d'abord les données descriptives et nous allons essayer d'en tenter une classification. Nous partirions des données, des traits retenus pour la description et nous verrons ce qu'ils en font. Ensuite, je les ai associés, j'ai essayé de constituer des chaînes jusqu'à se faire une certaine idée globale du monde médiéval tel que un docteur de l'époque, un savant, pouvait l'entrevoir. La première chose qui frappe quand on lit aussi bien les traités de pharmacologie que les traités de minéralogie systématique, que les traités de description, dirions-nous, ou que les lapidaires, c'est l'insistance sur la couleur. Toutes les pierres portent un nom en TES, en TES. La galactite, la magnétite, la pyrite, la lazulite, etc. Le linguiste Georges Redard, dans son ouvrage sur les noms en TES ou TIS, a montré qu'il y avait là une indication d'une relation. Relation avec un autre objet censé mieux connu. La galactite, du grec gala, aussi appelée lait de la Vierge, est une sorte de craie qui fait penser au lait. L'hématite, qui est grise, mais qui, quand on la mouille, devient rouge, fait penser à du sang, haïma, et ainsi de suite. L'insistance est donc d'abord sur l'analogie avec quelque chose de plus connu et une indication de couleur. À cet égard, il est fascinant de lire en philologue le livre 37 de Pline l'Ancien. Confronté à l'infinie diversité des gemmes et à la richesse du vocabulaire grec qui les décrivait, le naturaliste se comporte comme un virtuose du lexique latin, multipliant les synonymes Rubert, Rufus, Rubicundus, les préfixes et les suffixes sub-Rubert, les incoatifs Flavescens, Rubescens. Il y a là tout un jeu de nuances, toute une palette infiniment subtile que l'on retrouve après lui dans le latin d'Isidore, mais qui reflète en réalité la difficulté de rejoindre une gamme chromatique extrêmement floue, extrêmement fugace. Pline joue, et les encyclopédistes après lui, Barthélemy Langlais, Vincent de Beauvais, très précis, mais il utilise Pline, n'est-ce pas, joue sur deux notions, la couleur et l'éclat. Nitens, brillant. Fulgens, qui n'est pas nitens. Sourdus, pour ce qui est mat. Et il y a donc là toute une classification qui s'esquisse. Classification qui est naturelle et désignation qui est naturellement floue. Nous savons que si la couleur est un critère intéressant pour des substances pures, elle ne l'est pas pour des substances mélangées. Et donc, il y a de grandes confusions dans la nomenclature pour des pierres qui ont la même couleur. Ainsi, saphirus désigne en grec le lapis lazuli. Mais à partir du moment où s'introduit par le persan, en grec byzantin puis en latin, le mot lazurium, saphirus se spécialise dans le saphir. Caeruleum désigne toutes les espèces de bleu, aussi bien le bleu de verre qui est artificiel que l'azurite qui est naturel. Et saphirus connaît une dernière vicissitude lorsque, au XIVe siècle, dans la région de l'Erzgebirge, il désigne le safre, c'est-à-dire le bleu de cobalt. On le voit, les confusions étaient fréquentes. Les apothicaires astucieux en profitaient, bien entendu, pour vendre du rouge de plomb au lieu du rouge de mercure. C'était un petit peu moins toxique. Bien. Mais donc, lorsque on a cette appréhension de la couleur, il y a des idées qui y sont liées. Ce n'est pas pour rien que les pierres rouges, comme l'hématite, sont jugées soit hémostatiques, soit emménagogues. Elles provoquent les règles ou elles les arrêtent. Il y a là une ambivalence de la couleur. Prenons un premier exemple, le cristal de roche. Krystallos en grec. Mais krystallos désigne la glace. Donc, il y a l'idée que l'on trouve chez Diodore de Sicile dans les questions naturelles de Sénèque, chez Pline l'Ancien, que le cristal de roche est de la glace solidifiée par les siècles. Et donc, à la suite d'un processus infiniment lent de congélation, il en résulte que le cristal présente des propriétés tout à fait particulières. Il calmera la fièvre, puisqu'il est de la glace. Il calmera les tempéraments trop ardents. Il dissipera les maléfices en raison de sa pureté. Et chez des mystiques comme Angelus Silesius, il sera l'allégorie de la Vierge Marie, à travers qui la grâce passe pour illuminer le monde. Donc vous le voyez, il y a une progression de proche en proche autour d'une caractéristique fondamentale du cristal. Et le cristal pose une autre ambiguïté. C'est que dans, couramment, depuis l'Antiquité, on vendait sur les marchés des boules de cristal qui servaient non pas à prédire l'avenir, mais à allumer le feu. Comment les médiévaux allumaient-ils leur feu? Avec des lentilles. On a fait des lentilles avant de connaître les lois de la dioptrique. Et donc, le cristal, qui est une pierre de glace, sert en même temps à concentrer les rayons du soleil, c'est une pierre de feu. Ambiguïté donc de cette pierre, pierre de feu et pierre de glace, que l'on retrouvera dans son histoire, dans ses applications médicales. Voilà pour la forme. Voilà pour la couleur. Il y a, à côté de la couleur, il y a les propriétés optiques. On observe que le cristal est transparent. certaines formes de cristal, et c'est longtemps avant le prisme de Newton, décomposent la lumière et produisent sur un mur un arc-en-ciel. C'est la pierre que les lapidaires appellent l'iris. Et je vous dis ce que dit Marbode, cette pierre naît, nascitur, n'est-ce pas ? Donc c'est vivant. Dans la mer rouge, semblable au cristal, sa forme hexagonale lui confère un vif éclat qui explique son nom. En effet, si à l'intérieur d'une maison elle est présentée aux rayons du soleil, le mur le plus proche est marqué d'une coloration changeante et présente la figure d'un double arc-en-ciel. L'iris, le cristal, un certain nombre de pierres ont des propriétés optiques et sont polies dans ce but. Ce n'est pas pour rien que dans les langues germaniques, brille désigne les lunettes. C'est que ces lentilles étaient produites à partir de béryl transparent. Et je vous rappelle Suétone qui raconte que Néron regardait les combats de gladiateurs avec un monocle d'aristocrate prussien qui était fait d'une seule émeraude, smaragdus, qui n'est probablement pas de l'émeraude, parce que l'émeraude, n'est-ce pas, est venue, il y a ce qu'on appelle le jardin de l'émeraude, mais qui était probablement de la fluorine ou quelque chose de ce genre-là, mais il regardait les combats de gladiateurs à travers un monocle d'émeraude. Donc, on a ici aussi, épisodiquement, une instruction sur les propriétés optiques. J'en viens maintenant à la forme. La forme n'est pas véritablement conceptualisée. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui des pierres qui ont des formes angulaires et qui correspondent à des figures, à des solides géométriques. C'est ce que nous appelons des cristaux. Par analogie, par généralisation du cristal de roche qui est, comme vous le savez, un prisme hexagonal. Nous avons des pierres qui ont la forme de plantes et d'animaux. C'est ce que nous appelons des fossiles. Aujourd'hui, nous savons que ce sont des animaux pétrifiés ou des plantes pétrifiées. Autrefois, le mot fossile désignait toute espèce d'objet extrait du sol. Donc, nous distinguons ça très bien. Nous avons aussi des pierres que l'on trouve chez les antiquaires et qui portent des gravures. Nous disons que ce sont des intailles et des camées fabriquées par l'art des anciens. Il y a des pierres que l'on trouve du sol et qui sont aussi des outils préhistoriques, des pointes de flèches, des haches néolithiques. Nous distinguons tout ça. Les médiévaux ne les distinguent pas. Pour eux, toutes ces pierres sont des lapides figurati, c'est-à-dire des pierres qui ont une figure et qui sont nées de la force génératrice du caprice de la nature, natura ludens, ou des caprices de la forme minéralise, de la force minéralisante. Et il est très curieux, par exemple, lorsqu'on lit les traités qui sont publiés par M. Veiparo, certains de ces traités sur les pierres talismaniques, présente la pierre comme donne une méthode de fabrication de la pierre, ils connaissent donc l'art de la gravure. D'autres les présentent comme des objets que l'on trouve dans la nature. Si in quocumque lapide sculptum in veneris. Je donne un exemple, n'est-ce pas ? Voilà, c'est dans le lapidaire chrétien qui chrysolite persier treuve de viperseur ou de neuve et une soie d'âne y fiche. Donc si on trouve une chrysolite percée, eh bien on met dedans une soie d'âne pour la suspendre. Alors je donne une autre pierre gravée, voilà. Marbode. Le roi Pyrrhus portait au doigt une agate dont le chaton représentait les neuf muses et debout au milieu d'elle, Apollon jouant de la cithare. C'était l'œuvre de la nature et non d'un travail, ce qui est proprement admirable. Il y a donc là toute une réflexion sur la forme. J'ai parlé des haches de pierre fossiles. Les haches néolithiques, comme les bélemnites, vous savez ce que c'est les bélemnites, ces espèces de fossiles en forme de flèche que l'on trouve, étaient considérées comme des pierres de foudre et portaient le nom de lapis fulminis, en grec, kéraunios lithos, Cela s'appelle jusqu'au XVIIe des séronies ou pierres de foudre qui naturellement étaient suspendues dans les maisons pour protéger de la foudre. Cela nous met cette considération de la forme. Dure depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, en 1565, le grand naturaliste Conrad Gesner publie encore à Zurich un livre intitulé « De lapidum figuris et similitudinibus liber » sur les similitudes et les figures des pierres, où il traite en vrac des fossiles, des cristaux, plus des pierres gravées, nous sommes à la Renaissance, des fossiles, des cristaux, des haches de pierre de la préhistorique, et il essaye une classification des minéraux fondée sur la forme. Il est certain que de même que la couleur, la considération de la forme suscite elle aussi tout un jeu d'analogies qu'il faut décoder dans la réflexion médiévale sur les pierres. Ceci est une géode. Une géode. Cela s'appelle, en grec, aetites lithos. En latin, lapis aquilée, pierre d'aigle. L'aigle, nous disent aussi bien les lapidaires chrétiens que les lapidaires païens, l'aigle prend cette pierre, déjà lourde, hein, prend cette pierre et la dépose dans son nid pour protéger ses petits. Et cette pierre est très bonne pour les femmes enceintes parce qu'elle les empêche de faire une fausse couche. Si d'ailleurs on n'enlève pas la pierre à temps, l'accouchement ne pourra pas se faire. Cette pierre, quand elle est fermée, contient une autre petite pierre à l'intérieur. Ceci est une analogie assez facile à percevoir dans ce qu'on appelle la magie imitative, entre la géode qui est creuse avec une petite pierre à l'intérieur et la femme enceinte qui a un petit enfant dans son ventre. Analogie, mais que fait l'aigle là-dedans ? En réalité, nous sommes ici sur le chemin de très vieilles associations. Mon professeur d'acadien, le regretté Georges Dossin, a découvert qu'en acadien, cette pierre s'appelle Aban Eri, mais que Eru, c'est un génitif, Eru, en acadien, a deux sens, l'aigle et la grossesse. La pierre d'aigle, la pierre des parturiantes. Analogie de forme qui nous amène, n'est-ce pas, dans un très vieil, dans un passé incroyablement lointain, mais cette littérature lapidaire est par nature conservatrice, et elle, par nature conservatrice, et elle charrie des associations d'idées très anciennes. Je pourrais citer d'autres exemples fondés sur la forme. Toute la spéculation sur le corail. Le corail, pour nous, ne fait pas partie de la minéralogie, mais c'est un classique de tous les lapidaires. Le corail, c'est une plante qui a été pétrifiée, nous dit-on, en sortant de l'eau. Et naturellement, ceci met sur la piste des vieilles légendes de la gorgone méduse, qui pétrifiait tout ce qu'elle voyait et tout ce qu'elle touchait. On le voit, la forme, la couleur. Premier critère qui nous met sur la piste de tout un univers de représentation et d'association. Il y en a un autre, c'est le critère du travail. Ces pierres ont été travaillées. Et il y a beaucoup de mentions sur le comportement de ces minéraux lorsqu'on les transforme soit en médicaments, soit en pierres de parure. Et il faut d'abord donner la parole aux apothicaires, qui sont des gens tout à fait précis. Le problème des apothicaires, c'est que certains minéraux qui venaient de très loin étaient donc falsifiés et qu'il fallait fournir toujours une probatio et une electio, c'est-à-dire les moyens de reconnaître les bonnes variétés. Je prends chez Dioscoride, dans Dioscoride latin, la description de l'orpiment. L'orpiment, ça sert en enluminure, c'est du sulfure jaune d'arsenic, c'est un poison mortel. Ça présente, c'est très joli, c'est très doré, et ça présente une structure lamellaire au clivage. Et bien voilà ce que dit Dioscoride. L'orpiment naît dans les mêmes mines que le réalgar. C'est vrai, là, le réalgar, c'est aussi un sulfure d'arsenic, mais il est rouge. Le meilleur est celui qui est en lamelles et qui est de tendance dorée pour sa couleur et qui a les plaques qui s'écaillent et qui sont comme posées les unes sur les autres et qui ne sont pas mêlées à une autre nature. C'est celui-là qui grandit, gennomenon, dit-il en grec, n'est-ce pas, naskitur en latin, en Mysie et dans l'Hellespont. Il y en a deux espèces, l'une, comme on a dit, l'autre qui est en boule, qui est de couleur plus ocre et qui est de deuxième qualité. Je donne un autre exemple, la sinope, qui est le verre, qui est la terre, qui va être extraite de sinope en Asie mineure, n'est-ce pas, en Turquie actuelle. Et vous voyez ces différents critères où il s'agit du comportement lorsqu'on transforme en médicament, on l'écaille et puis on le pile. La sinope, la meilleure, est celle qui est compacte et lourde, couleur de foie, sans grumeaux, de couleur homogène, contenant du jus, quand on donne en beaucoup de jus, quand on la dissout. On l'extrait en Cappadoce dans certaines grottes, on la filtre et on la transporte à sinope et on la vend, d'où elle a son nom. Premier classement fondé sur le comportement. Le deuxième est en réalité un classement qui vient de la pratique des joailliers eux-mêmes, que nous connaissons mal, mais grâce à certains textes sur les arts et métiers, eh bien, nous avons des indications qui sont de première main. Je cite la Mappe Clavicula, bien sûr, ce grand récepteur dont la dernière version est du XIIe siècle, mais je pourrais citer aussi un texte qui a été édité sous ma direction autrefois par un jeune étudiant de Poitiers, Geoffrey Grassin, et qui s'intitule « La doctrina poliendi pretiosos lapides », c'est-à-dire « L'art de polir les pierres précieuses ». C'est un texte qui est du XIIe siècle et qui nous décrit le comportement des pierres précieuses quand on les traite autour. Et je vous donne l'exemple ici de la Mappe Clavicula. « Toute pierre de nature plus dure, comme l'hyacinthe, l'albandine, l'escarboucle, sont frottées à la pierre d'émeri sur une table de plomb, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme que le tailleur veut lui donner. Ensuite, on la frotte à la lavure de la même pierre, sur laquelle d'abord on l'a frottée, jusqu'à ce qu'elle soit lisse, donc avec un grain plus fin. On la fait briller de cette manière, mais l'hyacinthe, on le fait dans la poudre de pyrite brillée sur une plaque de cuivre. Les autres pierres sont brillantées soit à la poudre de craie, soit à la poudre d'argile qui se fait avec d'anciens vases sur une tige de bois de tremble ou d'aulne. Mais les gemmes de nature plus molle sont frottées dans la poudre de pierre de sable sur le plomb, c'est le cas de l'améthyste, du cristal, de l'onyx, du jaspe, du béryl. Ensuite, on les frotte jusqu'à ce qu'elles soient lisses dans la lavure de la même poudre et ainsi de suite. Ainsi s'esquisse ce qui est l'ancêtre de notre échelle de Mohs, c'est-à-dire des minéraux classés selon leur dureté. Il y a les pierres qui se traitent à la lime, il y a les pierres qui se polissent à la pierre de sable, il y a les pierres qui se polissent à l'émeri, il y a les pierres qui se gravent au diamant. Et ici, la doctrina poliendi est extrêmement intéressante, elle recommande l'émeri sur la table de plomb, elle recommande la lavure d'émeri, la poudre de cristal brûlé, d'onyx, de pierre à feu, de briques pilées. Et les pierres dures sont polies sur une table de métal et les pierres plus tendres sur une table de bois. Il y a donc ici, à côté de cette classification selon la couleur, il y a une appréhension des pierres selon leur comportement devant l'outil. Eh bien, lorsque l'on regarde, et ce sera mon dernier point, les classifications et les théories sur la genèse des minéraux, on s'aperçoit exactement qu'elles se fondent sur ces critères. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, tout se fonde, comme vous savez, sur la théorie des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Aristote avait esquissé une théorie extrêmement ambitieuse, où deux exhalaisons souterraines, que l'on pourrait comparer à nos solutions thermominérales aujourd'hui, eh bien, donne
Les unes, les corps fusibles, c'est l'exhalaison humide, les autres, en brûlant la terre, les corps infusibles, c'est-à-dire les pierres, les terres colorées, etc. C'est une hypothèse qui a été abandonnée. Très tôt, les naturalistes, à partir de Théophraste, vont construire un modèle de génération des minéraux fondé sur le mélange de la terre et de l'eau. Pour Théophraste, les pierres sont simplement de la terre agglomérée. Pour Avicenne, dans ce traité qui aura une influence immense, le décongélation, et parce qu'il passe pour représenter la pensée d'Aristote. Pour Avicenne, la terre pure ne peut pas devenir pierre, car elle n'est pas compacte, elle s'effrite. Il faut un élément coagulant, qui est l'eau. Il en résulte deux types de mélange, selon que prédomine la terre ou l'eau. Dans le premier cas, une boue grasse donne des pierres compactes et opaques. Dans l'autre cas, une solution plus claire, en se figeant, donnera toutes les pierres précieuses translucides, ce qui rend compte des propriétés optiques, de la dureté à l'outil. Mais ouvrons, pour aller plus loin, ceci fonde évidemment une classification. Les terres, qui se dissolvent dans l'eau, les pierres dures, les pierres compactes, les marbres, les pierres précieuses. Mais ouvrons ce De Mineralibus d'Albert le Grand, qui est probablement un des plus grands chefs-d'œuvre de ce docteur universel. Albert, n'est-ce pas, s'est trouvé devant un problème considérable. Il a les météorologiques d'Aristote et il voit bien que ce n'est pas fini. Il cherche désespérément pendant toute sa vie un lapidaire d'Aristote qui circule, il le sait, ça existe. Il ne le trouve jamais, il n'en connaît que des citations. En réalité, ce lapidaire d'Aristote, c'est un lapidaire médico-magique qui n'est pas d'Aristote et qui vient des écoles médicales de Syrie et de Perse. Et donc Albert le complète avec le témoignage des alchimistes, le témoignage des artisans et avec tout ce qu'il observe et tout ce qu'il ramasse pendant ces décennies de pérégrination à travers toute l'Europe. Et donc Albert s'efforce de traiter la génération des pierres selon les principes d'Aristote avec les quatre causes, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle, la cause finale. Et lorsqu'il étudie la génération des pierres, eh bien, il explique que dans la ligne d'Aristote, dans la ligne d'Avicenne, les causes matérielles sont évidemment la terre et l'eau. Les causes efficientes sont le chaud et le froid, agissant tantôt par cuisson pour les unes, tantôt par congélation pour les autres. Et la preuve qu'il nous en donne, eh bien, ce sont des preuves techniques. Il prend ses preuves dans la fabrication des fausses pierres. Il dit la preuve, dit-il, que de ce que nous avons dit, notamment que l'eau agit par le sec, chaud ou froid, et que l'eau influencée par le sec, chaud ou froid, et la matière commune des pierres transparentes, la preuve, c'est que le verre est fait d'une humidité de ce genre, qui est fondu à partir de différentes cendres, soit de plomb, de silex, de fer ou autre chose, par le feu le plus fort. Que cette humidité est l'eau est démontré par le fait que le verre est solidifié par le froid et fondu et liquéfié par une intense chaleur. De même, pour la génération des pierres opaques, il prendra comme exemple les analogies dans la fabrication de la poterie, dans la fabrication de la brique, où une boue est cuite pour donner de ces pierres, en quelque sorte artificielles. Il est prouvé, dit-il, dans des opérations artificielles, quand de la vieille poterie est broyée et calcinée et ensuite mélangée avec de l'argile humide, pour faire des pots qui sont solidifiés par le passage au feu et alors rendus extrêmement durs et incapables d'être consumés par le feu. Et pour cette raison, les artisans demandent des vaisseaux faits de cette manière quand ils fondent les métaux. C'était la manière, n'est-ce pas, de faire des creusets avec de la vieille céramique pilée et ensuite de la nouvelle argile, de manière à faire quelque chose de très résistant au feu. Donc, on le voit, les classifications, les descriptions, les hypothèses sur la genèse des minéraux, dans le modèle général de la théorie des quatre éléments, sont en fait la transposition de réalités techniques qui se déduisent de la pratique des minéraux eux-mêmes. C'est une hypothèse que l'on pourrait généraliser en allant un peu plus loin. Il y a ce très généralisé à toutes les études, je dirais à toutes les études antiques et médiévales sur les structures de la matière. Il y a un très curieux traité qui est le traité, le livre 4 des météorologiques d'Aristote. Ce livre passe pour être le traité de chimie d'Aristote. Il décrit le comportement des corps dits homéomères. Homéomères, ça veut dire constitué d'une seule espèce de matière. Donc nous sommes tous anhoméomères parce que nous sommes faits de plusieurs espèces de matière. Mais par exemple, un bloc de fer est un corps homéomère. Et il s'efforce de classifier les corps homéomères pour les mettre en rapport avec ce modèle général des quatre éléments. Et ici, il y a un exemple qui est tout à fait intéressant. Comment les corps diffèrent-ils entre eux? Et vous allez voir qu'ils diffèrent tous entre eux par des propriétés qui ne sont que des propriétés techniques, c'est-à-dire le comportement à l'outil. Aristote nous dit... Tous les corps diffèrent entre eux d'abord par les impressions particulières qu'ils font sur nos sens, grâce à la possibilité qu'ils ont de produire un effet. Un corps est blanc, odorant, sonore, doux, chaud ou froid, suivant l'action qu'il est capable d'exercer sur les sens. C'est ce que j'ai dit de la couleur et de la forme. Et ensuite par d'autres modifications, pathosine, dit-il en grec, qui traduisent ce qu'on appelle leur aptitude à subir un effet. Par exemple, la possibilité de fondre, de se solidifier, d'être flexible et toutes les propriétés du même genre. Il dit, par exemple, n'est-ce pas, un corps est solidifiable ou non solidifiable, fusible et non fusible, malléable et non malléable, amollissable et non amollissable, flexible et non flexible, cassable et non cassable, friable et non friable, apte ou non à recevoir des empreintes, modelable ou non modelable. On se croirait, n'est-ce pas, dans les classifications de la matière d'André Leroy-Gourhan. Nous sommes dans les solides, plastiques, semi-plastiques, fibreux et d'autres, étirables ou non étirables, ductiles ou non ductiles. En réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici du prolongement spéculatif, des opérations techniques qui se pratiquent non plus seulement sur les pierres, mais sur toute espèce de matériaux. Le témoignage des sens, le comportement des matériaux à l'outil. Au point que l'on pourrait, n'est-ce pas, faire une idée audacieuse et se poser la question si simplement les théories de la matière des anciens et des médiévaux ne sont pas simplement la superstructure spéculative de leur technologie et de leurs moyens de travailler la matière et de la produire. Mais c'est une chose où beaucoup d'éléments nous échappent. Car tous ceux qui ont écrit sur la matière, sauf peut-être les apothicaires, ne l'ont pas manipulé eux-mêmes. Entre eux et la pratique vivante des artisans, il y a des écrans et des écrans filtrants. Et la manière dont l'artisan, le praticien, appréhendait la matière nous échappe largement. Avec mon ami Laurent, je parle souvent du savoir des hommes de l'ancien temps, de leur coup d'œil, de la manière dont ils distinguaient les choses. J'apporterai une nouvelle pièce au dossier que l'on ne croira pas. L'autre jour, sur le marché, je paye avec un billet de 50 euros. Le marchand le fait claquer pour voir s'il est bon. Je lui dis, où avez-vous appris ? Et il me dit, j'ai appris ça d'un vieux marchand juif qui connaissait tous les billets de banque d'Europe rien qu'en les froissant, au son qu'il produisait. Ça est possible. Théophraste, dans son traité des pierres, nous dit que les essayeurs avec la pierre de touche distinguaient un douzième de carat. Et ces exemples d'appréhension technique de la matière méritent d'être relevés avec précision. Il y a un tableau qui m'a toujours impressionné, c'est celui de Quentin Metsys, le changeur et sa femme. On les voit avec leurs outils, la balance, la pierre de touche, les petits poids pour la balance, différents échantillons, ce qu'on appelle les touchous, et un collier de perles de la plus belle eau posé sur un coussin en velours. Ils ont les yeux mi-clos, comme s'ils concentraient leur regard sur les propriétés de la matière. Peut-être aussi les yeux mi-clos parce qu'il regardait une chose que l'on ne se lasse jamais de contempler, ces pierres précieuses dans lesquelles, comme dit Pline l'Ancien, se résume toute la majesté de la nature. Je vous remercie.
Merci beaucoup, comme d'habitude, Robert. Merci énormément. Donc, je passe la parole à la salle.
Bonsoir. Vous nous avez expliqué donc, qu'on cherchait toutes ces propriétés des pierres. Est-ce que, dans l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a cherché à recréer ces pierres ?
Oui, évidemment. Mais alors, il y a un passage très intéressant que je vais vous trouver naturellement. Il y a, n'est-ce pas, madame, la falsification est aussi vieille que le monde. Il est évident que chaque fois qu'il y a eu des matières précieuses, on a eu envie de les imiter et de les falsifier. Et donc, dans les pierres précieuses que vous voyez sur une châsse, par exemple, j'ai regardé avec mon épouse Edina, nous avons regardé la châsse de Sainte-Élisabeth de Hongrie, où il y a des pierres récupérées de l'Antiquité, et châsse du XIIIe, et beaucoup de pierres fausses, n'est-ce pas ? Alors, il y a, depuis l'Antiquité, un art de contrefaire les pierres précieuses. Ça se trouve dans les manuels de recettes, ça se trouve dans la, notamment la Mappi Clavicula, il y en a déjà dans le papyrus de Leyde, et il y a un art, il y a tout un art très subtil. Vous savez, on peut par exemple faire ce qu'on appelle un doublé. On coupe une pierre en deux, on met de la couleur entre les deux, puis on la recolle. Hein, c'est comme ça, on peut faire une véritable émeraude avec ça. Enfin, ça ressemble. Alors, c'est très simple. Pour les médiévaux, ces pierres, elles ont bien sûr la couleur, mais il y a des moyens de les détecter. Il y a des probationes. Probatio, ils n'ont pas à ce moment-là le microscope, ils n'ont pas les rayons X, mais il y a une probatio, par exemple en les chauffant, n'est-ce pas, hein, ou bien en les grattant pour voir, c'est du verre coloré, n'est-ce pas, ou du cristal de roche coloré. Donc il y a ça, mais surtout, comme dit Marbode, les pierres falsifiées, elles n'ont pas les propriétés. Donc là, je vais essayer de vous lire ce texte qui est très intéressant dans le lapidaire de Marbode. Il faut que je vous le trouve, n'est-ce pas ? Il dit ici que naturellement, je ne vais pas le retrouver évidemment, hein, il nous dit, et c'est tout à fait intéressant, c'est à la fin, n'est-ce pas, de son Liber Lapidum, c'est intitulé De Annulo et Gemma, hein, sur l'anneau et la gemme. Il dit que les hommes sont tout à fait pervers parce qu'ils falsifient ces merveilles de la nature, mais que de toute façon ils perdent leur temps parce que quand on fait ça, eh bien, on produit une pierre, mais c'est une pierre qui n'a aucune vertu. Ce qui est clair. Donc je ne l'ai pas ici, je vais essayer de vous le retrouver. Je vais essayer de vous le retrouver plus tard. Donc, bien sûr, il y a eu une tentative pour les imiter, comme il y a eu des tentatives pour imiter les métaux précieux, comme il y a eu des tentatives pour imiter les épices, n'est-ce pas, pour les falsifier. Hein, les apothicaires étaient tout à fait experts en mélange complètement peu ragoûtant. Vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, le poivre était extrêmement cher, mais dans les entrepôts, ben, on l'allongeait avec du sable. Hein, pour vous donner une falsification à peu près décente.
Mais attendez, monsieur, je donne le micro. Il faut que j'arrive jusque-là, excusez-moi.
C'est pas tout à fait une question, mais je vous écoute et je me demandais, après la vie de la pierre, quelle est la place des scories ?
Les scories, c'est... la scorie, n'est-ce pas, c'est dans les... D'abord, la scorie, ce qu'on appelle scorie, ce sont les déchets de la métallurgie. Ben, scoria, n'est-ce pas, en grec, ça veut dire excrément. Et scoria se traduit en latin, la scorie de fer se traduit en latin par merda ferri. Hein,
Donc, n'est-ce pas, la scorie, pardonnez-moi, donc ce sont des excréments, et à ce titre, c'est utilisé en pharmacopée comme déchet. Hein, vous savez qu'il y a un grand usage dans la médecine antique, c'est ce qu'on appelle la pharmacopée stercoraire, où on emploie toutes sortes d'excréments. Et donc, je ne dirais pas que c'est la même chose pour les sous-produits de la métallurgie, mais tous les sous-produits de la métallurgie sont valorisés et vendus en pharmacie. Par exemple, la scorie de fer, c'est un cicatrisant. La scorie de plomb, ça entre dans des préparations dermatologiques. Donc, tous ces produits des régions comme Chypre, dans l'Antiquité et même dans le haut Moyen-Âge, des régions comme Chypre, qui sont des régions productrices de métal, c'est en même temps des centres d'industrie pharmaceutique où on vend des produits comme par exemple la poudre de zinc, ce qu'on ne savait pas que c'était du zinc, évidemment, ce qu'on appelait la spode de Chypre, qui était utilisée pour les médicaments ophtalmiques. D'ailleurs, les sels de zinc ont été utilisés en ophtalmologie très longtemps, n'est-ce pas ? Eh bien, la poudre de zinc se vendait de Chypre et c'était celle de Chypre qui était réputée la meilleure. Donc, il y a là tout un monde d'utilisation de ces minéraux sur le corps humain, particulièrement dangereux, n'est-ce pas, monsieur, en général, mais qui est très répandu dans la pharmacopée classique.
C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que vous parlez de merde. Et bien avant le Moyen-Âge, à l'époque du bronze, évidemment, surtout chez les Romains, les noyaux de la fonte de bronze qu'on faisait, il était souvent composé de kaolin, de crottin de cheval, de sable, je ne sais pas quoi. Et c'est en écoutant que je réalise qu'effectivement, ce mélange qui paraît merdique comme ça, il est vital.
C'est un matériau très important, vraiment très important pour la fabrication des creusets, n'est-ce pas ? Et pour la fabrication des coupelles, par exemple, on utilise du crottin, bien sûr, qui présente des propriétés tout à fait particulières d'absorption. Et quand on le mélange avec de l'argile, etc., mais ça, vous savez, il y a une grande étude à faire sur tout l'usage de ces déchets dans la construction, dans la céramique, etc. Oui, bien sûr. Hein. Ils n'avaient pas nos pudeurs, n'est-ce pas ? Je vous donne un exemple. Bon, on en a parlé, je crois, quand je suis venu vous parler de métallurgie. Eh bien, pour fabriquer de l'acier, donc pour tremper une belle lame en acier, eh bien, naturellement, on l'enduit d'excréments complètement, qui lui fournit de l'azote et qui lui fournit du carbone, puis on met dans les charbons, on chauffe, on souffle, ça va très lentement, ben c'est ce qu'on fait dans les bacs à cémentation. Et puis on trempe.
Oui, monsieur.
Peut-être hors sujet, comment se représentaient-ils les planètes ? Est-ce que c'était des êtres de minéraux ou est-ce que c'était des abstractions finalement ?
Ah non, sur la matière des planètes, là, ils n'ont jamais pensé que c'était des minéraux, n'est-ce pas ? Hein, ils n'ont jamais pensé que c'était des minéraux. Les corps célestes sont constitués d'une toute autre matière que les corps terrestres. Donc, c'était même très impie de considérer que, par exemple, la Lune, même la Lune elle-même, était constituée de minéraux. Déjà un philosophe grec, n'est-ce pas, c'est Anaximandre, qui a eu un procès d'impiété parce qu'il a dit que le Soleil, c'était un mudros, c'est-à-dire un mudros, c'est une loupe de fer chauffée au rouge. Hein. Donc, ça, c'était très impie. En revanche, les corps célestes sont toujours mis en rapport, dans la littérature des lapidaires médiévaux, les corps célestes sont mis avec des pierres précieuses. Donc il y a des lapidaires de 7 pierres, par exemple, 7 pierres précieuses, qui sont mises, écoutez, lisez ça dans les journaux, lisez les horoscopes de gala ou bien de n'importe quoi, et vous aurez dedans l'horoscope avec la pierre de votre signe et la pierre de votre planète, n'est-ce pas ? Bon, mais ça, c'est des trucs, ce serait très intéressant d'ailleurs de faire des comparaisons, et certaines d'entre elles remontent au Moyen-Âge. Bon, allez, mais ça repose sur ce que je vous dis, la perception de la couleur. La chrysolite, c'est évidemment, qui est une pierre dorée, c'est le soleil. La sélénite ou la galactite, les pierres blanches, c'est la pierre de lune. L'hématite, qui est peut dire l'hématite, ou bien disons les beaux minerais de fer, hein, eh bien, c'est évidemment la planète Mars, parce que le fer, c'est le métal de Mars. Donc, mais ça, c'est des choses qui remontent à la fin de l'Antiquité. Dans mes lapidaires grecs, j'ai édité un lapidaire de cette pierre qui correspond exactement aux pierres planétaires de Gala. Hein. Je dis Gala, comme je pourrais dire VSD, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, ici, Paris.
Sur la valeur marchande des pierres, alors les lapidaires le précisent sans doute pas, mais qu'est-ce qui la fixe ? C'est la beauté, la rareté ou les vertus médicales ?
Écoutez, là, ce qu'il faut regarder, mais évidemment, ils ne disent pas comment c'est comme toujours. Vous savez, moi, je passe mon temps à chercher les rares traces du savoir technique médiéval, c'est-à-dire du coup d'œil de ces artisans, c'est pas dans les textes. Mais on sait, par exemple, par les comptes, les inventaires, les manuels de marchands, qu'il se fait un grand trafic de pierres précieuses et que les joailliers qui sont dans les ports, par exemple à Venise, n'est-ce pas, eh bien, expertisent des pierres qui viennent de très loin et savent, par des critères que nous n'avons plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein, essayez, vous allez voir, vous achetez votre bague de fiançailles, eh bien, vous allez chez le bijoutier, il vous dira un tel, alors que deux diamants sont exactement les mêmes pour vous. Lui, il vous dira, celui-là, pas, il a une bulle. Vous voyez bien, ben non, on ne la voit pas, la bulle, mais lui, il la voit. Hein. Donc, de la même manière, les bijoutiers, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, les joailliers, les Lombards, par exemple, pouvaient reconnaître avec précision la valeur d'une pierre précieuse, sa pureté, son eau, etc. Et c'est un savoir dont il ne nous reste que des bribes à travers les textes que nous avons. Dans les manuels de marchands, eh bien, on trouve des indications sur la valeur des pierres précieuses, sur le prix, combien un bon rubis balais se vend, combien se vend le lapis lazuli. Le rubis balais, il vient de Birmanie, hein, à ce moment-là, et le lapis lazuli vient du Badakhshan, qui est une région d'Afghanistan. Donc vous imaginez le trafic de ces pierres, et évidemment, il y a des experts pour les évaluer. Mais alors, comment ils évaluaient ? Nous le savons très mal.
Bonsoir, est-ce que vous avez dans votre texte, dans les textes, des témoignages de déformation de la perception ? Parce qu'en fait, si on perçoit les couleurs, il est bien évident que les personnes qui ne les perçoivent pas comme les autres, ou bien les myopes qui voient un peu plus de près, alors on ne sait pas toujours quelle est la poule de l'œuf, on ne sait pas s'ils deviennent myopes parce qu'ils font toujours un travail en regardant très près, ou s'ils font ce travail parce qu'ils sont myopes d'avance. On connaît bien les horlogers qui sont naturellement myopes.
Hein. Bien sûr.
Est-ce que vous avez... Dans l'Antiquité, comme au Moyen-Âge, on a ces rapports-là à des déformations de la perception qui donnent une qualité de perception, puisque la déformation, la plupart du temps, crée une autre.
Il y a les deux. Mais vous savez, ça pose un énorme problème, monsieur, ici. Le problème que vous me posez, c'est tout le problème de l'optique physiologique dans l'Antiquité au Moyen-Âge et même de l'optique en général. C'est très imprécis. Ils voient évidemment les médecins distinguent un certain nombre de troubles de la perception qu'ils appellent, mais de façon extrêmement floue, caligo, le brouillard, n'est-ce pas ? On ne peut pas voir de loin, etc. Donc, c'est relativement imprécis. Et une classification véritable des troubles de la perception et une classification véritable des phénomènes optiques, eh bien, non, il faut attendre le XVIIe siècle et il faut attendre la dioptrique avec Kepler. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des lunettes. Ça veut, n'est-ce pas ? Depuis le XIIIe, on en a. Hein, et qu'on n'utilise pas des lentilles. Vous savez, il y a des textes tout à fait intéressants sur les verres optiques dans Roger Bacon, n'est-ce pas, au XIIIe siècle. Donc, on est vraiment tout au début, là.
Moi, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire que, alors certes, on classe les maladies, mais est-ce qu'on a dans les rapports des textes éventuellement quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui voit pas les couleurs comme quelqu'un d'autre ? On a ça dans notre.
Attendez, là, ça, je cherche une mention de quelqu'un qui ne verrait pas les couleurs comme quelqu'un d'autre, donc vous voulez dire des phénomènes de daltonisme ou des choses comme ça.
Et qui serait condamné pour ça, parce qu'en fait, c'est qu'il ne voit pas les mêmes choses que les autres. On pourrait imaginer.
Honnêtement, dans ma. J'ai lu beaucoup de textes anciens et de textes médiévaux, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Des déformations de forme, oui. Des gens qui voient des fantômes, qui voient des choses qui n'existent pas, oui, mais des déformations dans la perception des couleurs, j'ai aucun texte en tête, monsieur. J'ai aucun texte en tête, mais je vais bien chercher.
Une aubre qui n'aurait jamais vu, excusez-moi, monsieur. Je pensais, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le monsieur à côté, et j'ai pensé tout d'un coup à quelqu'un qui est aveugle de naissance et qui n'a jamais vu la couleur.
Ah ben c'est dit drôle, la lettre sur les aveugles.
Et oui, mais justement, au début j'ai rigolé quand le monsieur a posé la question, mais en fait, je trouve ça très poussé parce que quelqu'un qui ne connaît pas la couleur avec le nom de rouge, de bleu, de blanc et qui n'a jamais vu.
Je n'ai pas de... Honnêtement, je n'ai aucun texte en tête. Ça, il faudrait regarder. Il y a une personne qui pourrait vous renseigner. C'est une dame qui est une historienne de l'ophtalmologie antique et qui a écrit des choses là-dessus, Madame Margan. Elle pourrait vous aider. Moi, je n'ai pas de texte en tête à ce sujet-là.
Pour les médicaments,
oui.
leur utilisation, elle dépend de leur symbolique ou d'un autre savoir ?
Non, docteur.
Ou des deux ?
Leurs médicaments, pour les médicaments, vous devez très soigneusement distinguer dans quelle tradition vous êtes. Si je vous ai distingué plusieurs traditions qui ont traité les minéraux. La tradition est la pharmacopée que l'on appelle aujourd'hui galénique et qui est plutôt la pharmacopée de Dioscoride, qui est la plus positive, si vous voulez. Chez les lapidaires, j'ai distingué trois traditions. Laissons tomber la tradition aristotélicienne. Dans les lapidaires, si une pierre est employée pour une affection, vous avez certainement une connotation symbolique, compréhensible, sous-jacente ou perdue. Il y a tout un réseau de vieilles associations d'idées que l'on ne retrouve plus. Dans la littérature pharmacologique, donc dans la littérature de Dioscoride et de Galien, où ces médicaments sont employés essentiellement en médecine externe, c'est très rare qu'on les emploie en médecine interne. Donc c'est très rare qu'on fait avaler ce genre de choses. Ça existe. Il semblerait plutôt que l'utilisation, que le rôle pharmacologique que l'on attribue à un minéral est une généralisation, pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'on a enregistré, est une généralisation de ses propriétés sensibles.
On a tout ce qu'il faut.
Par exemple, merci, c'est une généralisation de ses propriétés sensibles, c'est-à-dire qu'on sent qu'un médicament est astringent, l'alun, certaines pyrites, astringent, et donc, on l'emploiera que pour cicatriser les plaies. Vous voyez ? Donc, il y a là une, je dirais plutôt, une généralisation des propriétés organoleptiques. C'est plus simple. Ça happe sur la langue. Bien. Eh bien, on le prendra pour étancher le pus, pour sécher les blessures. C'est un absorbant. On s'en servira pour certains emplâtres. C'est rongeant. Corrosif, le vitriol, on s'en servira sur les verrues, n'est-ce pas ? D'accord ? On s'en servira pour les verrues et aussi pour les lésions à l'utérus. C'est ce genre de choses qu'on emploie. Donc, n'est-ce pas, on l'emploiera pour des ulcérations, par exemple. Donc, c'est assez... On n'a jamais fait cette étude sur les bases empiriques, si vous voulez, de la pharmacie galénique ou de la pharmacie de Dioscoride, je vois, quand j'analyse les descriptions, eh bien, je vois très clairement qu'on part des propriétés sensibles pour en tirer une propriété médicale. Il y a probablement des cas où ça ne marche pas et où le phénomène est inverse, où l'effet constaté vient renforcer une vieille association d'idées sous-jacentes. Là, je ne vais pas donner un exemple dans les pierres parce que j'en ai pas, mais évidemment, il y a l'exemple du colchique qui évoque, dont le bulbe évoque un doigt déformé par la goutte et qui était utilisé pour la goutte, mais qui contient de la colchicine qui semble avoir un effet. C'est l'exemple classique. Hein. C'est l'exemple aussi pour un certain nombre d'aphrodisiaques qui ont la forme, n'est-ce pas, d'un testicule ou d'un phallus, hein, et qui pourraient contenir des substances censées avoir ce genre d'effet. Donc là, vous avez à l'origine une vieille association d'idées, une pensée de réflexion de type analogique, renforcée par un effet très réel.
Oui, mais il y a quand même, enfin, sur les minéraux, je ne connais pas, mais en botanique, vous avez un ensemble de plantes, ne serait-ce que l'opium. Je veux dire, il n'a rien de... Toutes les plantes antalgiques, par exemple la laitue, certaines ciguës, etc., le datura, tout ça, c'est, il a bien fallu qu'ils expérimentent à un moment donné.
J'ai publié dans ma revue un très bel article d'un très grand historien de la médecine qui malheureusement n'est plus parmi nous, le docteur Gurmec, n'est-ce pas, l'auteur d'Histoire du Sida. Et Gurmec avait fait une très belle étude sur l'expérimentation pharmacologique dans l'Antiquité. Et là, c'est tout l'acquis, on est hors du sujet, mais c'est un sujet passionnant, parce que ça touche à la pratique de l'expérimentation, c'est toute l'histoire des médecins empiriques. Les médecins empiriques, c'est une école qui a été tuée par Galien, dont il ne nous reste que les fragments édités par Deichgräber, mais l'école empirique est une école extrêmement intéressante. Que fait l'école empirique? Elle dit, on ne connaît pas les causes, et on ne va pas les chercher. Ça ne sert à rien de chercher les causes. On va simplement observer la concomitance, syndromée. Donc le fait que ça se produit en même temps. Que quand on donne tel médicament, eh ben, il se passe telle chose. Et donc, eux vont faire généraliser l'expérimentation pharmacologique. Et donc, ils vont prendre un certain nombre de plantes. On s'aperçoit que quand on prend beaucoup du... Et il remédie, il s'efforce de contourner la coïncidence et l'erreur d'interprétation par la répétition des expériences. On n'observe que toutes les fois que on prend du séné, on va à la selle. On observe toutes les fois que, n'est-ce pas, on prend de l'opium, on s'endort. Et donc, mais les empiriques ne diront jamais l'opium provoque le sommeil. Les empiriques disent il y a syndromé, concomitance, et donc sur la répétition des concomitances, on construit une thérapeutique. Donc il y a une expérimentation pharmacologique dans l'Antiquité. Ceci dit, quand vous lisez ces auteurs, on est devant une grande énigme. Il y a évidemment des remèdes dont l'effet est constaté. Il y en a beaucoup d'autres dont on ne sait rien, vous le savez. C'est assez fascinant de lire les herbiers médiévaux. Il y en a un tiers qui sont bien passés en pharmacie galénique, et qui sont donc, où on connaît les principes actifs. Il y a un tiers qu'on trouve encore aujourd'hui dans les traités de phytothérapie, où ça marche ou ça ne marche pas, avec de la bonne volonté, et il y a un tiers où on ne sait rien du tout. Rien du tout. Il y a des effets qui sont attribués, et dont nous ne savons rien. Alors, n'est-ce pas comme disait Poincaré, croire à tout et ne croire à rien sont deux solutions également commodes qui nous dispensent de réfléchir.
Bonsoir, monsieur. Au travers les différents classements que vous nous avez proposés ce soir, y a-t-il eu un classement dit de valeur aux yeux des hommes entre l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et nos jours? Au travers des événements politiques, religieux ou économiques, en clair, y a-t-il eu des stars lapidaires ancestrales ou y a-t-il eu des pierres qui sont tombées en désuétude?
Ah, il y a plusieurs choses là dans votre question. C'est une superbe question qui est la question économique. C'est une question où il y a beaucoup de questions. Parce que vous avez deux choses dont vous dites. Vous avez le phénomène de mode et vous avez le phénomène de valeur vénale et du cours de matière qui sont des matières de référence. Hein. Il est bien évident
que vous avez des plans, des pierres, bon, tous les corindons, hein, qui maintiennent leur valeur au cours du siècle et qui sont donc soumises à la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand il y a, par exemple, arrivée massive de pierres précieuses venant d'Amérique latine, eh bien, il y a une baisse du cours. Il y a, ça, c'est le problème des pierres de référence qui sont chères. Le lapis lazuli, par exemple, pour prendre une pierre du Moyen-Âge, ben, lapis lazuli, vous avez des fluctuations dans le cours du lapis lazuli, tout simplement parce que l'approvisionnement se tarit, il vient par la route des caravanes. Il vient par la route des caravanes jusqu'au Liban, et puis, il prend le bateau. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous me posez la question, est-ce qu'il y a un phénomène de mode ? Oui, il y a un phénomène de mode. Il y a des pierres qui sont à la mode pendant une période et puis qui sombrent complètement dans l'oubli. Je donne un exemple, le jaillet ou le jet, qui est fondamentalement du lignite. Donc, c'est rien du tout. Mais c'est beau, ça brille, c'est noir. Eh bien, il y a plusieurs époques, là, même au 18e et au 19e, la mode des bijoux de jaillet. C'était, n'est-ce pas, ça, au 19e, on appelait ça les bijoux de veuve, parce que c'était des bijoux noirs. Et donc, c'était les seules parures que les veuves pouvaient porter. Maintenant, c'est complètement tombé en désuétude. On peut parler du corail, on peut parler de l'ambre. Bon, l'ambre, n'est-ce pas, l'ambre a des fluctuations. Il y a des moments où l'ambre, c'était plus rien du tout. Maintenant, n'est-ce pas, ben, tout le monde achète à ses petits-enfants des colliers d'ambre, ce qui vient de Plutarque. Les colliers d'ambre qu'on met aux petits-enfants pour qu'ils ne fassent pas de convulsions quand ils poussent leurs dents, c'est une chose qui se trouve dans les lapidaires alexandrins. N'est-ce pas ? Mais ça, il y a eu des vagues où on n'en parle plus et puis des moments où ça revient. Vous dites ? Vous êtes lapidaire, monsieur ?
Non, pas du tout, mais je suis d'une famille de bijoutiers.
Eh bien, n'est-ce pas, vous êtes d'accord avec moi pour l'ambre, n'est-ce pas ?
Tout à fait, mais on en vendait encore en 1975, voire 1980.
Des petits colliers d'ambre pour les petits-enfants.
On appelait des colliers prophylactiques.
C'était des colliers prophylactiques, mais c'est clair. Or, ces colliers prophylactiques, ben moi j'en ai acheté pour ma petite fille. Bon, elle l'a cassé. On appelait ça des colliers prophylactiques et c'était les cadeaux de baptême. Donc, mais vous imaginez pas ce que ces pierres, n'est-ce pas, charrient comme croyances qui remontent à des temps immémoriaux, des choses que l'on entend dire, les malédictions sur l'opale, les malédictions sur le rubis. Et ce sont des choses qui d'ailleurs varient selon les civilisations. Il y a certaines pierres qui sont jugées maléfiques dans un certain contexte, et dans d'autres civilisations, on n'a pas du tout ces idées-là. Donc, il y a des familles, dans certaines traditions de familles nobles, on ne veut pas de telles pierres. Les Romanov ne voulaient pas de rubis, si je ne me trompe. Ça a quand même mal tourné.
Oui, parce que outre le fait de qu'il y ait une valeur faciale, je pensais aussi à la valeur spirituelle.
C'est vrai, mais là je vais vous dire une chose, c'est un symbolisme, monsieur, qui s'est un peu érodé. C'est-à-dire que là, voyez-vous, c'est très beau, le symbolisme des pierres, c'est comme le symbolisme des plantes, c'est comme tout ce symbolisme qui est colporté par des auteurs comme Barthélemy Langlais, par exemple, et tous les textes, tous les lapidaires allégoriques. Eh bien, si vous lisez le livre de l'abbé Brémond, l'histoire littéraire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle, eh bien, c'est un très beau livre, il parle des prédicateurs du XVIIe, eh bien, ceux qui faisaient encore de l'allégorie suscitaient une franche hilarité. Donc, ça veut dire que le symbolisme religieux, symbolisme des pierres, des plantes, qui est si beau, si profond, c'est à un moment érodé, si vous voulez, et n'a plus parlé aux gens. Il n'a plus survécu que dans certaines traditions dites populaires. Et dans le cas du symbolisme des pierres précieuses, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a suivi, et, n'est-ce pas, les vicissitudes de l'art chrétien. C'est médiéval, et puis ça reparaît en masse avec le néo-gothique, le néo-roman, le néo-byzantin au XIXe siècle.
Excusez-moi.
Les staurotides s'appellent déjà pierres de croix. Honnêtement, Marie-Thérèse, je ne les ai jamais vues. Ah non, ça ne s'appelle pas pierre de croix. Eh bien, dans la littérature, moi, dans, pour, oui, c'est un cristal qui s'appelle pierre de croix, mais je ne crois pas. D'après, je pense que j'ai lu toute la littérature lapidaire jusqu'à Boèce de Bode. Hein, j'ai lu tout. Et je ne l'ai jamais vu. Donc, il faudrait que je regarde quand ça apparaît. Et je ne l'ai jamais vu. Ah, ça aurait pu, bien sûr. Il y a des pierres qui sont, n'est-ce pas, il y a des pierres qui ont qui évoquent des choses religieuses. Par exemple, dans les reliques étudiées par Edina, il y a des reliques dites de lait de la Vierge, ben c'est de la galactite, hein, bon, c'est-à-dire de la crie. Hein, mais staurotide, je ne l'ai jamais vu. Dans la littérature que je connais, mais je vais chercher, évidemment.
Question d'analphabète, là, je voudrais savoir comment cet ouvrage d'Albert Legrand s'inscrit dans l'ensemble de son œuvre.
Ah, monsieur, c'est vous dites.
On attend votre conférence.
Ah oui, mais ça, il faudra quand même un jour qu'on fasse ici une conférence sur Albert Legrand. Écoutez, Albert Legrand est un homme, c'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un homme extraordinaire. Il a vécu 90 ans et il a fait toute l'Europe et une partie de l'Asie à pied. Bon, c'était l'âne, il portait les bouquins. Albert, il marchait. Il regardait les pierres, il regardait les cailloux. Albert, n'est-ce pas, c'est pas pour rien que Pie XII a fait de Saint Albert le Grand le patron des scientifiques chrétiens. C'est un homme qui a une, n'est-ce pas, d'abord, c'est un homme qui a une conscience profonde de l'unité du savoir et de l'unité de la vérité. Donc, il n'y a pas le problème science et foi chez lui comme il y a chez Thomas. Le problème de double vérité, il n'y a pas ça chez Albert, n'est-ce pas? Il lit deux livres, il lit le livre de l'écriture, le livre de la nature. Et il a la plus grande admiration pour Aristote, et donc il essaye de faire de tout ça une vision cohérente du monde. Et il n'a peur de rien, c'est-à-dire qu'il écrit sur des matières qui pourraient même être suspectes à cette époque, comme la gynécologie. Il utilise son expérience de confesseur pour parler, n'est-ce pas, de la vie sexuelle de la femme. Il considère la masturbation comme quelque chose de normal. Il y a les femmes qui n'ont pas d'hommes. N'est-ce pas, donc il a une étrange ouverture à des phénomènes comme, qui passent pour suspects, comme la magie. Et en même temps, il a un esprit critique extrêmement rigoureux. Il dit, on raconte ça, mais ce n'est pas prouvé du tout. Dans le De Mineralibus, c'est extrêmement intéressant, mais c'est un écrit, vous savez, moi j'aime pas qu'on dise, hein, un tel c'est un scientifique moderne, un tel, bon, on est tous modernes, on est tous progressistes, on est tous perdants là. Mais Albert le Grand, n'est-ce pas, réellement c'est un homme qui a une curiosité extraordinaire, et il cherche à comprendre ce qu'il a sous les yeux. C'est-à-dire que lui, il voit par exemple, il y a un passage qui m'a frappé. Vous savez qu'à cette époque-là, Cologne, qui est sa ville, c'est la ville où on fabrique le laiton. Eh bien, il est allé voir les artisans qui fabriquaient du laiton, du cuivre jaune, jusqu'au moment où il trouve que il a compris comment ça marche. Jusqu'au moment où il a compris comment ça marche. Il y aurait des tas de thèses à faire sur Albert le Grand. Quelqu'un qui voudrait lire Albert et qui écrirait, par exemple, Albert et les artisans de son temps. Ce qu'il a vu faire, n'est-ce pas? Il a vu mettre les harengs dans des tonneaux au bord de la Baltique. Il a remarqué comment le sel conservait les harengs. Il a vu dans le pays de Namur les éleveurs de chevaux qui sélectionnaient les chevaux de course et comment on faisait les croisements. Il fait des fiches. Non, c'est un personnage extraordinaire. C'est probablement le plus grand, à mon avis, scientifique du Moyen Âge. Et c'est une équipe aussi. Hein. N'oubliez pas qu'Albert n'a jamais travaillé. Il n'a pas travaillé tout seul. Il avait des secrétaires qui faisaient des résumés. Il y avait des gens qui lui envoyaient, des échantillons. Il le dit. Hein. Et alors, avec une solide dose d'esprit critique, je vous jure, par rapport à toute cette littérature qu'il a lue, il ne croit pas. Hein. Non, c'est un homme de foi et c'est un homme de science. crois qu'il a été bien choisi par, par Pie XII.
Merci beaucoup, Robert Halleux. C'était une belle phrase pour la fin.